Bonjour, mesdames, messieurs. Merci beaucoup d'être à l'écoute de cette émission. Nous avons tout un sujet de discussion à vous proposer pour cette première heure. Vous vous en doutez, on va revenir sur l'histoire de cette fillette qui est morte après avoir subi les pires sévices au cours de sa jeune vie, malheureusement. Et surtout, on va essayer d'amener un petit peu la réflexion, pardon, un petit peu plus loin. D'ailleurs, François Legault, hier, le premier ministre du Québec, nous a dit qu'il était un beau maudit comme à peu près tout le monde, mais il nous appelait à une réflexion un peu plus globale sur le traitement qu'on fait de nos enfants. Et c'est une question qui préoccupe certaines personnes depuis des années. Il y a déjà eu, vous avez peut-être entendu hier Camille Bouchard sur nos ondes qui parlait de cette époque où il avait d'ailleurs signé un document qui a malheureusement été un peu trop tabletté et qui s'intéressait au sort des enfants, où on posait la question, est-ce que c'était, dans le fond, on parlait du Québec fou de ses enfants. Le Québec est-il vraiment fou de ses enfants? Ou est-ce qu'on devient fou quand il s'agit de nos enfants? Et c'est ça, je pense, qu'il faut se demander ce matin. Comment se fait-il que tout un village, puisqu'on dit que ça prend un village pour élever un enfant, où était le village pour la petite fille? Comment se fait-il qu'on ait laissé ce genre de situation perdurer pendant autant d'années? Aujourd'hui, là, ce matin, après plusieurs jours de discussion, de colère, hein, vous avez beaucoup exprimé votre colère hier quand on s'en est parlé, vous et moi. Et là, ce matin, où est-ce que vous en êtes? Je vais vous donner l'occasion de nous dire un peu quelle a été votre réflexion là-dessus, mais je vous présente mes invités d'abord pour en discuter. Joselito Michaud, j'ai pensé tout de suite à lui, à Joselito, parce qu'il a vécu en famille d'accueil, Joselito. Et il a, vous le connaissez bien sûr, comme animateur, comme producteur, et justement, il a, vous avez sans doute vu la série Olivier qu'a coproduit Joselito, peut-être avez-vous lu son livre, Dans mes yeux à moi. C'est un peu ton histoire, pas ton autobiographie, mais c'est quand même inspiré de ce que tu as vécu, Joselito. Merci d'être avec nous ce matin.
Ça me fait plaisir.
On va bien sûr revenir sur ce que tu as vécu en famille d'accueil. Joël Monzé a vécu lui-même la violence dans son enfance, comme beaucoup d'enfants d'ailleurs. Oui. Parents européens, hein?
Oui.
Ils ont comme la claque qui part vite.
La fessée.
Oui, si ce n'était que la claque, ce serait encore correct. Ouais. Il y avait d'autres choses.
Oui, tu nous diras, Joël. Merci de t'ouvrir là-dessus, parce que je pense que c'est rare que tu en parles, parce que c'est la première fois que tu le dis, parce que tu es aussi psychothérapeute.
Oui, mais j'en ai parlé une fois, en fait, dans un de mes livres qui s'appelle « J'ai juste besoin d'être compris ».
Oui.
Et la raison pour laquelle je commence tout doucement à accepter d'en parler, c'est que de deux choses. L'une, quand on vit de la violence, premièrement, l'enfant se sent coupable. C'est comme si c'est lui qui était en tort. Donc, il y a un sentiment de honte qui est effrayant. Et qui fait en sorte que bien souvent on se tait et on ne va pas chercher de l'aide là où on en a peut-être éventuellement besoin. Et la deuxième chose, c'est que de temps en temps, j'en parlais dans des formations que je donnais et je montrais comment est-ce qu'on pouvait s'en sortir de ça. Et de manière curieuse, ce sont des hommes qui systématiquement venaient me voir à la fin de la formation me dire « merci, tu m'as rendu l'espoir, j'ai vécu l'enfer, mais maintenant je sais que je peux m'en sortir ». Et c'est ça un petit peu qui fait que de temps en temps, je me permets d'en parler, mais c'est la première fois à la radio.
Et t'avais quel âge?
En fait, depuis que je suis tout petit. Donc, aussi loin, je pense que les premières formes de violence, je devais peut-être avoir 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines. C'était surtout de l'ignorance, en fait. De m'enfermer dans une pièce et de me laisser pleurer pendant des heures. Et mes parents de le raconter après, comme s'ils étaient fiers d'eux, en plus. C'est assez, spectaculaire. Puis ça a été de la violence physique de plus en plus fort, jusqu'aux alentours de mes 7 ans. Mais bon, c'était des gifles, des fessées, des coups de ceinture, de cuir et tout pouvait y passer. Puis j'ai changé d'école et comme dans cette école-là, il y avait une piscine et que les cours de piscine allaient faire en sorte que j'allais être probablement en maillot, qu'on pouvait voir des coups, j'ai l'impression que c'est à ce moment-là que les coups ont cessé, mais c'est de la violence psychologique qui a continué par la suite.
Wow. On est trois enfants ici qui ont grandi et trois qui ont vécu la violence.
Oui. Mais en même temps, je trouve que même si on grandit, on reste avec les stigmates de ça. Donc aujourd'hui, on doit toujours composer avec ça. Mais moi, si tu me permets, Isabelle, de revenir sur les événements d'hier, qui est arrivé il y a quelques jours. Mais hier, parce qu'on en parle encore ce matin, on en a parlé hier abondamment. Moi, j'ai pas envie de pointer...
Ça fait une semaine,
finalement. Ça fait une semaine, mais on parle tellement intensément tous les jours qu'on se dit que c'est arrivé tout à l'heure.
Ouais.
Il y a une chose qui est certaine. Moi, j'ai pas envie de dire ce matin, c'est la faute à DPJ. J'ai pas envie de dire... Et naturellement que le doigt se pointe vers cet organisme-là. Naturellement. On va y revenir. Mais il y a quelque chose de plus fondamental que ça aujourd'hui. Et je suis content de cette invitation qui arrive aujourd'hui et non 2 jours après. Parce que aujourd'hui, on a une grande réflexion de société à avoir d'abord, est-ce qu'on aime nos enfants? C'est ça le plus important aujourd'hui. Moi, je vois des jeunes, des fois, qui viennent chez nous à la maison et je dois courir après leurs parents pour leur dire, je faisais ça à 13 ans, 14 ans, vos enfants sont chez nous, il est rendu 22 heures, est-ce que vous venez les chercher? Il s'organisera tout seul. Moi, j'ai vu des enfants, ça, j'ai vu ça souvent. Donc, Bérénique et moi, on partait puis on faisait ça. Toute la responsabilité. Moi, je me souviens quand on a adopté nos deux enfants, Antoine et Yasmina, je sais pas pourquoi ça m'avait marqué à ce point-là, mais quand j'ai signé le document où je deviens tuteur officiellement, moi, j'ai senti une immense responsabilité de dire, faut pas que j'échoue ça. Est-ce que j'ai échoué? Il m'arrive parfois d'avoir pensé qu'il y a des moments où j'aurais pu être là, moins là, plus là, mais il y a une certitude que j'ai. J'ai essayé de faire de mon mieux. C'est ça le plus important. Et de ne jamais couper toute communication avec mon enfant. Je reviens avec cet enfant-là. Moi, j'ai été témoin de cette violence-là dans des familles dans lesquelles j'ai vécu. Mais c'était en 65-70. On est en 2019. Et moi, quand j'entends des gens aujourd'hui pleurer sur la place publique en disant « Je le savais que ce qui se passait chez le voisin. » Donc, on a une réflexion à faire très importante.
Je le savais, mais j'osais pas. Ou je savais, tu sais.
Parce que, oui, mais on dénonce des artistes pour n'importe quoi. On dénonce du monde pour n'importe quoi. Mais quand il s'agit de nos enfants, pourquoi, si tu as un doute à ce point-là, pourquoi tu dis pas, voilà, je pense qu'il se passe quelque chose. Je comprends aussi le débordement de l'autre côté. Quand arrive la DPJ, on parle maintenant de 100 000 plaintes. Et là, il faut que tu gères ces plaintes-là dans un système qui est défaillant, où il n'y a plus de monde, où il y a des gens, ce matin, à l'émission de Paul Arcand, on racontait qu'ils sont des jeunes maintenant qui entrent pour être capables de traiter ces plaintes-là. Ils n'ont pas d'expérience pour... Mais en même temps, je reviens sur notre rôle à nous. Si on se dit, comme en Haïti, qu'on est... C'est un village, comme tu l'as dit d'entrée de jeu, qui prend soin de nos enfants. Comment se fait-il qu'il n'y a pas quelqu'un qui a levé le bras en disant, quelqu'un qui sonne à 2h du matin pour venir prévenir 7 ans, qui vient sonner à une porte? Ben, je ne dis pas que c'est la faute du monsieur, mais il y a quelque chose dont on doit se dire. Il doit se passer quelque chose dans la maison voisine. Ouais. L'école
les voisins le disent aujourd'hui, ils voyaient l'état de la petite fille péricliter au fur et à mesure.
Oui. Mais j'ai entendu le père dire, pour défendre sa femme, hein, dire quelque part, on lui a passé des enregistrements.
Le père accusé. Là.
Le père accusé, voilà. Toujours la présomption d'innocence, mais en tout cas, les preuves sont assez irréfutables pour l'instant. Bref, il dit, lui, il défend sa femme, hein, qui est la belle-mère de la petite, et en disant, écoutez, ça n'a pas de bon sens, comment elle est devenue difficile à vivre, cet enfant-là. Écoutez-moi bien, là. Un enfant qui vit à tous les jours, et je l'ai vécu, des chocs de ce traitement-là à tous les jours, tu peux pas faire autrement que devenir un peu fou. Tu deviens un peu sauvage. Tu te définis autrement. C'est tellement difficile à tous les jours. Donc, il est possible que ces gens-là ont eu des difficultés à gérer toute cette situation-là. Mais il reste que notre responsabilité, en dehors d'être des parents, c'est de regarder autour et de dire, il y a quelque chose qui se passe. Et moi, je me souviens, tout le monde était au courant de ce qui se passait pour moi. Et personne n'osait. Moi, c'est ça que ça a fait. La première fois, quand j'ai entendu cette histoire-là, je me suis dit, j'étais à temps sans l'eau, puis je me dis, Véronique, personne ne se levait, tout le monde savait à mon époque. Et moi, je trouve qu'en
plus... Ils savaient quoi, José?
Ils savaient tout ce qui se passait dans cette maison-là. Tout le monde savait qu'il y avait de la violence, qu'il y avait de l'abus. Ils savaient tout ça. Tout le monde savait autour. Tout le monde savait parce qu'on me le disait qu'on savait. Les jeunes enfants qui étaient dans des centres d'accueil, tout le monde savait le traitement qu'on avait. Personne. Mais on se dit, on est en 70, en 75, en 80. Mais en 2019... où on est constamment sur les réseaux sociaux, tu sais, si on se servait de cette force-là pour aider nos jeunes.
Tu disais, on ne pointera pas forcément la DPJ. Là. Moi, je pense qu'on doit pointer la DPJ.
On va pointer.
Il faut absolument... J'ai devant moi les délais d'attente en moyenne là,
et comme par hasard,
pour l'évaluation.
En Estrie. L'évaluation.
Et dans l'ensemble du Québec, depuis les dernières années, ça a augmenté. Ben, depuis 2016, ça prenait 17 jours et demi pour évaluer un jeune. Aujourd'hui, en 2019, ça en prend en moyenne plus de 26, donc plus de 9 jours de plus. Là.
Mais regarde en Estrie.
Ça prend 26 jours évaluer un enfant. En Chaudière-Appalaches, ça prend aujourd'hui 10 jours de plus qu'il y a 3 ans. 10 jours de plus qu'il y a 3 ans. Ça prenait 17 jours et demi, ça en prend quasiment 28 pour évaluer un enfant. Là, Montérégie, c'est rendu 28 jours et demi pour évaluer un enfant. Là aussi, c'est quasiment 10 jours de plus qu'il y a 3 ans. Et en Estrie, tenez-vous bien, ça prend plus d'un mois par rapport à il y a 3 ans. Ça prenait avant, en 2006, donc il y a 3 ans, 26 jours pour évaluer un enfant. 2016, pardon. 2016, ça prenait 26 jours pour évaluer un enfant. En 2018-2019, 60 jours.
Oui, mais Isabelle,
qu'on nous explique ce qui se passe.
Parlons-en un peu de 30 secondes de DPJ pour te dire ça. Moi, ce que je trouve incroyable aujourd'hui, d'abord, on ne les entend pas, les gens de DPJ actuellement. On les entend
beaucoup.
Écoute,
pour répondre à ça, ouais, merci de me permettre.
Attends, regarde, nous, on a un devoir de loyauté envers leur employeur.
Ah ben, hey, moi, j'aimerais s'entendre.
Le devoir de loyauté, là.
Non, mais attention, il y a des pressions qui sont faites sur les travailleuses sociales quand elles essayent de dénoncer quelque chose parce qu'il n'y a pas de sens. Et c'est certain que c'est très difficile. Et donc.
Ils le font sous le couvert d'anonymat ce matin dans
la presse. En tout cas, la direction du CIUS de l'Estrie nous a dit qu'ils n'accorderont pas d'entrevue malgré le fait que nous l'avons demandé plusieurs fois. Effectivement, là, on est en train de se. Là, ils veulent absolument, ils insistent. Le conseil d'administration nous a appelé plusieurs fois pour nous dire oui, arrêtez de dire que c'est qu'il a été démissionné, l'ancien directeur de la DPJ de l'Estrie. En fait, c'est lui qui a demandé à être retiré temporairement, Alain Trudel, là, de ses fonctions légales de directeur de la direction de la protection de la jeunesse de l'Estrie. Et nous, au CHU, on a accepté sa demande de retrait temporaire. Moi, tout ce que je sais, c'est que le premier ministre hier, François Legault, puis sincèrement, c'est le premier ministre qui le dit. Il dit que c'est lui qui a fortement demandé à ce qu'il soit plus là. Mm-hmm. Après, tu peux t'ostiner sur comment tu le dis. Mm-hmm. Mais je pense que si le PM le dit, là...
Mais François Legault, hier, a dit une phrase aussi extraordinaire. On doit repenser tout notre système auprès des enfants. Et aujourd'hui, toute la défaillance des DPJ, tu le disais tout à l'heure, Camille Bouchard en a parlé, Louisiane Gauthier en a parlé dans une lettre ouverte il y a quelques années, co-signée par Camille Bouchard, où on disait, vous parlez de bien du monde, mais parlez donc des enfants, s'il vous plaît. Ouais. Jean-François Chicane, tu connais beaucoup le pédiatre. Mm-hmm. Combien de fois il a dit, est-ce que nous aimons véritablement nos enfants? Ça a crié comment? Donc, moi, je pense qu'on a une responsabilité aujourd'hui. C'est formidable qu'on soit du formidable dans le sens où il y a une conscience là soudainement cette semaine qui s'est comme manifestée. On
parce
a tous de la peine
est mort,
parce qu'un enfant est mort, mais il y en a d'autres.
Dans des conditions qu'on estime aujourd'hui incroyables, inadmissibles, inhumaines. Comment se fait-il qu'il faut attendre la mort d'un enfant?
C'est incroyable ce qui se passe. Mais il y en a d'autres enfants qui attendent 27 jours avant qu'on entre chez eux faire une évaluation. Est-ce qu'il y a de pire? J'écoutais ce matin encore l'émission de Paul Arcan et dans Valeurs d'enfance, on le voit aussi dans son documentaire. C'est quand on remet l'enfant en contact avec son agresseur. Donc, une banque mixte. Moi, j'ai deux amis à moi qui ont pris des enfants en banque mixte. C'est une réalité, ça aussi. Ouais. Et là, on prend l'enfant en banque mixte puis doivent rencontrer le parent agresseur une fois par semaine pour ne pas couper le contact avec...
Mais ça, c'est des lubies de psychologues, de pédagogues, de je ne sais pas quoi. Pourquoi on tient absolument à remettre toujours l'enfant avec sa famille si cette famille est toxique?
Mais c'est des croyances, en fait. Ce qui est pire, en fait, c'est que quand on voit, même à la rigueur, dans des situations comme celle de la petite fille, la DPJ va tout faire pour essayer de maintenir le lien avec les parents qui sont problématiques. Mmh. Et dans le cas où il y a des situations juste où le parent avoue sa vulnérabilité, là, on va les charger, les parents. Ils vont se retrouver dans des procès, dans des procédures complètement démentielles. Donc, on a vraiment deux formes de réaction qu'on peut voir, en fait, chez les intervenants. Ça dépend toujours aussi de la qualité et la compréhension que l'intervenant peut avoir du système. Mais, en fait, c'est ça, c'est qu'ils estiment que s'il y a un minimum de lien avec le parent, eh bien, c'est une manière de protéger ce lien alors que finalement, le lien est problématique.
Mais c'est un lien qu'on veut protéger. Un lien, c'est tenu, c'est virtuel. Ouais. Alors qu'il y a une vraie personne qui est un enfant.
Et si tu demandes à l'enfant...
Et
si tu demandes à l'enfant, est-ce que tu as le goût d'avoir ce lien-là? Il dirait peut-être non. Parce que cette jeune fille-là, aujourd'hui, là, elle est retournée chez la belle-mère, selon ce qu'on sait, chez la belle-mère qui avait été reconnue coupable. On a déjà perdu ça de vue. Là. On l'a remis là, tu sais, parfait, dossier réglé. On a compris peut-être ce matin qu'on avait ouvert un nouveau dossier puisque celui-là était réglé. C'est incroyable le système dans lequel on est et je pense que c'est au-delà de ça parce qu'il faut se demander, nos enfants qu'on est en train de médicamenter à tous les jours, quels sortes d'adultes qui vont devenir plus tard? Il y a aussi ça comme interrogation à voir.
Il y a beaucoup d'enfants qui sont médicamentés aujourd'hui parce qu'on n'arrive pas à recadrer les parents ou les adultes qui sont autour.
Ça.
C'est pas normal de se retrouver avec 14,5% de jeunes qui, à 14 ans, sont sous psychostimulants. On sait, techniquement, les normes internationales, on parle de 7 à 10%. Quand on regarde le reste du Canada, on est peut-être à 3% d'enfants qui sont médicamentés.
Tu dis qu'ici, au Québec, c'est près de 15%?
Oui, ça, ce sont les chiffres. Ça fait longtemps que j'essaie de les avoir. Et finalement, on les a obtenus avec un groupe de pédiatres en janvier dernier. Parce que quand l'Institut de statistiques du Québec a sorti les statistiques par rapport au nombre de jeunes diagnostiqués à 14 ans, on est à 23%. Quand on enlève Montréal et qu'on enlève Laval, on tombe à des valeurs de 30 à 33%, dont 33% en Estrie. D'accord?
Et, un jeune sur trois.
Qui se retrouve avec un diagnostic de TDAH aujourd'hui à 14 ans. Et c'est ça que les statistiques nous ont annoncé en fait en décembre dernier. Et en fait, en janvier, on a pu obtenir les vrais chiffres de la consommation de Ritalin âge par âge, en fait. Et on se retrouve avec 14,5% des
jeunes.
Donc
la question
qu'il faut
se poser, c'est la capacité parentale. C'est de oui. ça dont vous... C'est la et vraie
les
question.
Gens sont on aimerait que nos enfants soient comme des poupées de porcelaine.
Oui.
Mais c'est soit une... là, oui. sur la tablette, oui. qui bouge pas. Puis dès qu'il bouge, on dit, mon Dieu, il est pas tenable.
Hein? Ouais, tenable.
Et pire, je te dirais, c'est que ouais. quand tu regardes
on va y faire prendre des médicaments.
D'éléments, ouais. quand on parle du terrible two, du fucking four, des pré-ados,
un fucking
l'enfant,
four?
Oui, le fameuse crise de 4 ans.
Y a-tu un fucking four, puis on a manqué ça, nous autres, Joselita?
C'est toujours le moment où l'adulte est une victime de l'enfant. Donc, oh, c'est oui. comme si ça légitimise ouais. la violence physique ou psychologique envers l'enfant, parce que l'adulte oui. est victime de son oui. enfant.
Il devient beau.
Exactement. Donc, alors oui, aidons ces adultes. Ils sont en détresse. Mais arrêtons d'imaginer que l'enfant, il est un monstre.
Ouais, on
va il le devient
ici.
Éventuellement, mais avant tout, il est un enfant en détresse.
Incroyable. Ces chiffres-là, écoute, on manque de mots.
Oui,
il semble
oui.
qu'on manque de mots
oui,
devant plus, ça. On se sent mal. C'est physique. Je pense qu'il y a beaucoup de Québécois qui ont un malaise mm-hmm. physique. Je voyais les gens, les réactions, là, plus ça va, puis plus les gens me l'écrivent. Ils me disent, je me sens mal par rapport à ça. Moi, je vous écoute, là. Oui. J'ai des frissons mm-hmm. qui me traversent le corps depuis tout à l'heure. Je me dis, mon Dieu. Puis je vous le disais, là. On est trois anciens enfants ici. Ouais. Je suis sûr que si je demandais aux gens, là, en avez-vous vécu, vous, de la violence? Il y en a une méchante gang qui appellerait et qui se souviendrait de l'enfant malmené qu'ils ont été.
Oui.
Et c'est pas vrai que c'est normal de battre son enfant. Puis c'est pas vrai que c'est normal de faire de la violence psychologique aussi.
Et quand on est enfant, en fait, on va essayer d'enclaver ça dans notre mémoire pour ne pas trop souffrir. On enferme ça. Et rendu à l'âge adulte, quand on a 30 ans, 35 ans, 40 ans, quand on lit un livre qui va toucher, par exemple, ton histoire, José, ou le drame de Granby, eh bien, c'est là que cette mémoire-là ressort.
Ce qu'on appelle la mémoire cellulaire.
Oui, la mémoire du corps qui a souffert, mais même la mémoire des faits qui va ressortir à ce moment-là. Et ça amène aussi cette sensation, non, c'est terminé, il ne faut plus violenter nos enfants. Il faut trouver d'autres manières de les aider à grandir et à se responsabiliser.
Voilà. On va s'arrêter ici. Déjà, toutes nos lignes sont pleines. Alors, on va donner la parole à nos auditeurs. Va se joindre à nous également un petit peu plus tard l'ex-juge André Ruffaut, dont on a dit qu'elle était la voix des enfants du Québec pendant des années. Elle s'est beaucoup battue pour le respect du droit des enfants. Autant vous dire qu'elle n'en revient juste pas de cette situation en ce moment, mais que ça ne la surprend pas puisqu'elle dit que... Elle le répétait pendant des années. On n'aime pas assez nos enfants, puis on s'en occupe pas bien.
Puis on la traitait de folle à l'époque.
Mm-hmm.
Je me souviens des mots qu'on disait épouvantables avant la mère.
Alors, comment se fait-il qu'on laisse encore des enfants se faire maltraiter? On parle de ça ce matin. J'ai hâte de vous entendre. 514-790-9850. On a Joanne avec nous pour commencer notre discussion avec nos auditeurs. On se questionne sur le fait qu'on ait laissé passer trop d'années avant qu'on puisse s'intéresser au cas d'une enfant qui était maltraitée. Et les témoignages, Joanne, que je reçois ce matin de gens là, qui me disent qu'il y avait des gens, beaucoup trop de gens au courant. Il y en a même qui disent, moi j'ai dénoncé aujourd'hui, j'ai Julie, j'aimerais ça que vous m'appeliez Julie là, parce que vous me dites que vous avez dénoncé, qu'on ne vous a pas écouté. Vous, Joanne, qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? Comment vous réagissez par rapport à cette histoire?
Bonjour Isabelle. Moi, je suis marraine de deux jumeaux. Je suis fière d'être marraine. J'ai dénoncé et avec la mère, on a été jusqu'à la police pour faire des plaintes et des plaintes à la DPJ aussi et à l'école aussi. Et j'ai aucun retour d'appel depuis un an.
Dans quel coin êtes-vous, Joanne?
Ça arrive sud de Montréal, Châteauguay, dans le coin de Châteauguay.
Et vous avez fait une plainte contre qui? Contre le père biologique des jumeaux?
Non, c'est le beau-père en plus. Beau-père.
Et qu'est-ce qu'on vous... En fait, est-ce qu'on vous a répondu quelque chose ou on n'a même pas retourné votre appel?
Mais puisque je suis marraine, ils m'ont dit il faudrait que la mère fasse plainte.
Ah ben oui.
Elle a fait plainte. On était allé même voir la police et ils n'ont pas fait de suivi.
Parce que le vrai problème aussi, c'est José Ito, le vrai problème dans toute cette histoire-là, c'est qu'aujourd'hui, il y a peut-être des gens qui malheureusement ont abusé un petit peu du système en disant, je vais dénoncer le beau-père, m'a dénoncé la belle-sœur, m'a dénoncé l'autre. Mais en même temps, on oublie qu'on passe trop de cas importants dans ces filets-là. Et quand madame dit ça, je la crois parce qu'il y a des moments, moi j'ai vu combien de gens dire, ça n'a plus de bon sens ce qui se passe, il faut que je dise quelque chose, mais ils ne sont pas crédibles dès qu'ils font partie de l'entourage immédiat.
Voilà, et tu vois, j'ai Julie, je parlais de Julie tout à l'heure, qui m'écrit là, sur mon Facebook, elle dit, c'est son neveu là, qui lui confie qu'il vit de la violence, qu'il veut que ça arrête. Elle dit, j'ai appelé deux fois la DPJ, les deux fois, ils m'ont dit que j'étais pas assez neutre pour retenir mon témoignage. Imagine et je leur ai dit la dernière fois, est-ce que vous attendez qu'il s'enlève la vie? Parce que le petit garçon le dit. Comme la petite fille, j'entendais hier que la petite fille avait dit qu'elle voulait mourir, qu'elle avait des idées suicidaires. Comment tu peux... Oui!
Mais c'est parce qu'elle veut que ça s'arrête. En fait, je pense pas qu'un enfant de 7 ans, même de 14 ans, songe vraiment à mourir. Mais il y a le degré de souffrance est tellement fort que pour eux, c'est comme si c'est la seule et unique solution, la seule et unique alternative à la violence dans laquelle ils sont coincés depuis des années.
Vous avez entendu ce qu'il disait le père à la portant l'autobus. Ne vole surtout pas le linge des autres. Je veux dire, ne le vole pas le linge des autres en supposant qu'elle-même ne mange pas. Je veux dire, c'est quand même incroyable aujourd'hui que le chauffeur d'autobus a entendu ça, que quelqu'un d'autre a entendu ça, qu'à l'école, il l'a entendu.
Ben, il y avait sans doute, c'est ce que disaient bien des gens, qui disaient, ben oui, elle prenait le linge de ses copains d'école, mais pourquoi dans une école, on se questionne pas là-dessus?
Mais parfois, les gens se questionnent, mais c'est comme si il y a un sentiment d'impuissance, premièrement. Est-ce que les personnes, tantôt, tu le remarquais, à quel point nous, tous les trois, on a vécu des choses qui ont été difficiles dans notre enfance, et c'est comme si il y a une certaine acceptation, ben, parce que c'est encore comme ça, et on accepte cette violence éducative ordinaire, comme étant une manière stratégique. Alors, c'est pas nécessairement, d'ailleurs, parce que l'enfant va recevoir des coups, qu'il n'y a pas nécessairement de violence. La violence psychologique est terrible.
Dommages,
et
elle,
pour moi, elle laisse encore plus de dommages que des coups. Et quand je regarde, par exemple, ma propre histoire ou des jeunes que j'accompagne qui ont vécu cette violence-là, ben, c'est bien plus souvent les mots méchants qui les ont blessés profondément qu'éventuellement une gifle ou une fessée qu'ils ont
recevoir à un moment donné. Mais les coups ne viennent jamais tout seuls.
Non. Exactement.
Ouais. Ils viennent souvent avec du dénigrement aussi.
Oui, il y a
et c'est là qu'on a une position, comment dire, collective à prendre. C'est arrêtons d'accepter ça. Essayons de trouver des stratégies éducatives autres que tout le temps un rapport de force, cette violence continue qui fait en sorte qu'il y a tellement d'enfants qui sont en souffrance.
On poursuit avec vos témoignages d'auditeurs tout de suite après. Bonjour Josée, vous avez adopté un enfant de la DPJ. Et dites-moi un peu comment ça s'est passé.
Oui, en fait, c'est ça. Moi, j'ai adopté ma fille. Ben, finalement, j'étais en famille bande mixte, ce qu'on appelle.
Oui.
Elle avait 6 ans et demi.
Oui.
Donc, pratiquement le même âge de la petite fille dont on parle. Et elle avait subi les mêmes traitements, sauf qu'elle n'en était pas n'est pas décédée de ça, là, des mauvais traitements. En fait, elle était séquestrée, elle aussi, pratiquement toute sa vie.
Séquestrée?
Oui, séquestrée dans une chambre, avec des clous dans les fenêtres, avec une serrure dans la porte, avec pas de lit, avec des couvertures par terre, nourrie aux crottes de fromage puis aux tranches de pain. Elle a subi de très gros traumatismes, maltraitance, négligence. C'est au-delà de votre imagination.
José, est-ce que vous deviez, c'est José, est-ce que vous deviez être en contact avec justement ces agresseurs-là?
Non. Qu'est-ce qui était bon là-dedans? Justement, puis ça, c'est ça, j'aimerais, là, moi, la loi 4, là, la loi de la protection de la jeunesse, là, je suis vraiment contre ça, là, qu'il faut absolument garder l'enfant dans le milieu familial biologique. Moi, ce qui a aidé, c'est que justement, elle n'avait pas contact. Elle a été tellement maganée là, par ses parents qu'il y avait interdiction de contact. Sauf qu'elle a été tellement maganée, là, ça fait 6 ans de ça, puis elle commence à s'en mettre. Moi, là, j'ai dû prendre 2 années sabbatiques, pas travailler pendant 2 ans,
j'imagine,
plus un congé parental pour m'occuper d'elle. J'ai sorti toutes mes réelles pour m'occuper d'elle.
Bravo. C'est
plus,
fantastique.
Oui, en plus...
c'est fantastique, mais c'est pas normal.
Elle n'a pas été scolarisée. Elle était 2 ans en psychiatrie, en clinique de jour. Okay? Au lieu d'aller à l'école, elle allait en thérapie. Elle a fait ça pendant 2 ans. On est encore en thérapie. Maintenant, elle a 12 ans, puis elle commence à s'en sortir.
Mmh. Moi, ce que je trouve beau, c'est des gens comme vous,
Josée,
parce que prendre un enfant avec soi, c'est prendre ce qu'on ne connaît pas qui vient. Et parce que là, c'est ce que vous nommez, qu'on vous a dit, que vous avez vu, parce qu'il y a des cicatrices, il y a des stigmates de ça. Et vous allez adopter un enfant avec, prenant votre argent, votre courage, votre amour, pour aimer un enfant qui a tous ces problèmes-là. Et c'est pas terminé, j'imagine, Josée.
Non, c'est pas terminé. C'est un travail, un défi à la vie.
Et pourquoi, Josée, pourquoi vous avez voulu faire ça?
Ben en fait, moi, je voulais avoir un enfant, absolument, et j'avais été vers l'adoption internationale parce que, justement, il n'y a pas la loi 4. Là. Un coup qu'on a les enfants, quand on adopte à l'international, on n'a pas de garde partagée avec les parents biologiques.
Ah, c'est intéressant, la garde partagée. Jamais on avait dit ça comme ça.
Ça
vous avez raison.
Fait, c'est ça qui est, hein, en fait. Ouais. Et puis moi, quand j'ai fait... on est évalué par les centres jeunesse du Québec quand on fait l'adoption à l'international. Et c'est la psychologue qui m'a évaluée qu'un beau matin m'a demandé si je voulais avoir une petite fille du Québec. Alors moi, j'ai demandé est-ce que les parents sont dans le décor. Ils m'ont dit non. Abandon total de la famille élargie et tout. Mmh. Mais quand je l'ai eue, là, à 6 ans et demi, elle ne savait pratiquement pas parler. Elle ne savait pas marcher. Elle n'était pas capable de descendre des marches. Elle n'était pas capable de sauter d'un pied d'eau. Étant en choc post-trauma, elle ne pouvait même pas rentrer dans une salle de bain. C'est au-delà de votre imagination. Je vous le dis, là, ça n'a pas d'allure.
Et aujourd'hui, comment va-t-elle?
Aujourd'hui, elle va mieux, tranquillement.
Mais c'est un travail.
Mais encore là, je n'ai pas de ressources non plus pour m'aider. Là. Je veux dire, elle ne peut pas aller dans une école système public. Je dois l'envoyer dans une école privée. Encore tout mon argent qui sort, je veux dire, c'est...
Quel courage vous avez.
Josée, restez avec nous, on va prendre vos coordonnées. Merci beaucoup de ce témoignage qui a été d'ailleurs entendu par l'ex-juge André Ruffo qui est avec nous. Bonjour.
Bonjour
André, merci de prendre le temps de nous parler. Ça fait longtemps qu'on s'est parlé, je suis très contente de vous entendre. Votre réaction par rapport à tout ce qui s'est dit cette semaine. Moi, j'écoute le témoignage de Josée là, qui concerne une autre enfant. Puis moi, ça me trouble profondément. Je pense qu'on est tous troublés en studio, les auditeurs aussi. André Ruffo, là-dessus, qu'est-ce qu'on peut dire?
Je me souviens, il y a 30 ans, quand il y avait une juge qui disait que ça se passait comme ça, et qu'à ce moment-là, la ministre lui avait dit à son monde de la DPJ, faites la terre.
Ouais. On parle de vous, hein? On
c'était
parle de vous,
c'est juge-là.
C'est José Lito. Bonjour, André. Bonjour.
Bonjour. Mais je vous dis, moi, que c'est la même situation, mais empirée au fil des années. Pourquoi? Parce que la DPJ est devenue un monopole. Il n'y a rien à faire actuellement. Ces parents-là dont on parle, est-ce qu'il y a eu des plaintes aux criminels contre eux? Non, jamais. Non. Ça, on pense pas à ça, hein? Alors, les parents font des tentatives de meurtre sur les enfants, leur font vivre de l'inceste, de tout ce que vous voulez, et puis jamais il y a des plaintes aux criminels. Pourquoi c'est devenu public, ça? Parce que la petite est morte, puis parce qu'il va y avoir des plaintes aux criminels. Mais il y a des milliers de cas d'abus, de voies de fait, de tentatives de meurtre, d'inceste. Ce sont des crimes, mais jamais on accuse les parents. Jamais. Je pense que ça, il faut se le dire. L'autre chose, c'est que j'ai entendu le témoignage de madame qui est admirable, c'est sûr. Mais de notre côté, d'où vient cette histoire que j'entends depuis une semaine que c'est la famille biologique à tout prix? Ça n'est pas vrai. Ça n'est pas ça, la loi. Quand les parents...
C'est pas ça, la loi, André Ruffo, non?
C'est l'interprétation
des
gens.
Non, ça n'est pas ça, la loi. Quand on est parent, il y a une présomption de compétence. Quand ça ne va pas, que la DPJ prend l'enfant en charge ou que le tribunal entend la cause de l'enfant, à ce moment-là, son développement et sa sécurité sont compromis. C'est ça la loi. Et la décision doit être de mettre fin à la situation. Si ça peut être dans la famille, parfait. Sinon, c'est ailleurs qu'on envoie l'enfant. Mais vous savez, là, pour avoir eu, puis bon, à peu près toutes les régions du Québec ont été mises en tutelle, tout ce que vous voulez pendant 30 ans. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la grande majorité des situations où on maintient l'enfant, c'est parce qu'il n'y a pas d'autres ressources. Hein? Ouais. C'est parce qu'il n'y a pas de ressources. Mmh. Alors, on dit, on n'a pas de famille d'accueil, on n'a pas de centre, on n'a pas ci, on n'a pas ça. Dans la région, à l'époque, il y avait près de 75% des ordonnances qui n'étaient pas respectées parce qu'on disait, il n'y a pas de ressources. L'enfant revenait 6 mois plus tard, 1 an plus tard, encore plus hypothéqué, encore plus souffrant, mais c'était comme ça. On avait des beaux juges qui adaptaient leurs décisions aux ressources qui existent.
Juge Ruffo, vous avez fait ça pendant 30 ans. Vous êtes sorti, on le sait, on a discuté, vous et moi ensemble, d'une drôle de manière. Et aujourd'hui, quand vous regardez ce qui se passe, est-ce que vous trouvez que c'est pire qu'avant?
Oui, définitivement, parce que la loi du silence existe. Vous savez, c'est un peu... La comparaison est boiteuse, je le dis. C'est comme dans l'Église, hein? Le pape est là, les évêques, les cardinaux, bravo, eux autres, ils parlent, puis ils décident, puis ils camouflent, puis parlez pas des abus sexuels, puis cachez ça, puis envoyez les prêtres ici et là. À la DPJ, c'est la même chose. Moi, très, très régulièrement, après 13 ans de retraite, je reçois des téléphones d'employés de la DPJ, d'ex-employés de la DPJ, c'est encore arrivé hier, qui me disent, vous savez pas ce qui se passe. Puis je leur dis, me dites pas à moi, je sais ce qui se passe. Allez le dire ailleurs. aller le dire autrement. Parce qu'il y a une omerta, parce qu'on vit sous la terreur, parce qu'on a peur. Ça, c'est vrai pour les employés, les petits employés, là, ceux qui ont 20 ans, 22 ans, à qui on confie des charges, qui sont absolument incompétents pour assumer ces charges-là.
Mais comment un directeur d'une DPJ comme celle de l'Estrie peut tolérer que pour évaluer les enfants qui passent par sa DPJ, que ça prenne 2 mois, André? Comment il peut tolérer ça?
Ben, vous l'avez vu, le directeur? Ben, vous avez votre réponse, Isabelle. Qui sont les directeurs? Qui sont ces personnes qui sont là en charge? Quelles compétences ont-elles? Quel courage? Quel courage ont-elles? C'est, vous l'avez, votre réponse?
Mais Juge Ruffo, on entendait ce matin...
On aime mieux fermer les yeux, puis on aime mieux ne pas voir.
Juge Ruffo, on entendait aussi au cours des dernières heures, on entendait des gens qui disaient, on ne peut plus suffire à la tâche. Je parle des employés, ce que j'appelle les petites mains qui font de grandes choses. Et puis, ils se rendent compte de plus en plus qu'ils sont seuls au combat. Parce que justement, en haut, au pouvoir, ils ne sont pas entendus. Et c'est pour ça, la loi d'Omerta, ils se taisent, ces gens-là.
Mais c'est bien sûr qu'ils se taisent. C'est bien sûr qu'ils se taisent. Vous savez, c'est une petite anecdote, mais ça vous dit, en ouvrant un ascenseur, au moment où j'étais très contestée, il y a une travailleuse sociale qui me saute dans les bras et qui me dit, « Madame Ruffo, je vous adore parce que vous vous occupez des enfants. » Mais j'ai dit, « Qu'est-ce que vous me dites? Pourquoi vous le dites pas? » Elle dit, « Madame, je vais être mise sur une tablette ou je vais perdre mon emploi. »
Ah, mais non, c'est ça. Ah, personne n'a de colonne. Personne n'a de colonne. On est toute une gang de suiveux. André Ruffo, vous restez avec nous quelques minutes. Je veux vraiment qu'on écoute Jean-Pierre, parce que Jean-Pierre a une bonne histoire qui nous ramène à celle de Granby. Bonjour, Jean-Pierre.
Bonjour.
On vous écoute.
Bon, ben écoutez, moi, je vis à peu près la même situation, je vous dirais, de la situation qui s'est passée à Granby, mais à l'envers. Ce qui veut dire, comme quoi, que là, moi, j'ai mon garçon qui est placé dans les centres jeunesse à Mauricie. Et je me trouve à avoir... bon, là, depuis un certain temps, je vais vous dire, à peu près depuis le mois de janvier, on me pousse à le reprendre le plus rapidement possible. On me dit, oui, ça va bien à l'école, oui, il y a des bons comportements, oui, ça va bien à la famille d'accueil, il n'y a rien à dire. Quand j'ai été visiter la famille d'accueil, il y a un mois, écoutez, c'était complètement l'inverse de ce qu'on me racontait. Puis là, moi, je me trouve à être, en réalité, à vivre avec une autre conjointe qui se trouve à avoir 2 enfants aussi dans la maison. Mmh. Puis là, ça, mon garçon, il est rendu à un point où ce qui est tellement problématique qu'il déstabilise la famille d'accueil elle-même. Mais là, on continue à me pousser. Puis hier, je vais vous donner un exemple. Hier, j'avais une table de révision. Puis on m'est arrivé avec l'histoire que, ben là, pourquoi vous reculez pour la prendre? Non, non, je recule pas. Moi, j'ai 2 autres enfants dans la maison. Si la famille d'accueil actuelle est pas capable, elle commence à dire comme quoi qu'elle désorganise le restant de la famille au complet, mais c'est quoi, mais qu'on le ramène chez nous dans un mois? On va me dire, ah, ben vous le reprenez, mais finalement, moi, je vais être tellement...
Je comprends. Quel âge il a, votre fils, Jean-Pierre?
Il a 12 ans.
Il a 12 ans. Puis il est en famille d'accueil depuis combien de temps?
Il est en famille d'accueil, je vous dirais, depuis septembre l'année passée.
Donc, depuis un an à peu près. Moins d'un an. Donc là, on comprend, vous le voulez pas, là, votre fils.
Ben moi je le veux, mon garçon. Moi, c'est pas que je le veux pas, je le veux. Mais j'ai besoin de plus de ressources. J'ai besoin de
Il y a besoin de quelqu'un qui vous aide à l'aider à développer des comportements plus adéquats pour vivre en communauté. Mais si cette aide-là ne vous est pas offerte, je peux comprendre que vous ne souhaiteriez pas éviter le pire, en fait.
Ben je veux éviter le pire, mais ce que je veux pas non plus, c'est de déstabiliser tout le monde.
Ouais.
Parce que là, j'ai quand même deux autres enfants qui sont plus jeunes que lui, avec des problèmes que je détaillerai pas, là. Mais avec, il y a eu certains signalements que moi, ça me met une inquiétude sérieuse de ramener mon gars chez nous.
Mais il fait quoi, votre enfant, sans rentrer dans les détails, là? Il est violent? Il est agressant?
Non, il y a eu c'était un signalement à caractère sexuel.
Il a fait des attouchements sur des autres enfants ou sur...
Je dirais plus, c'était pas de l'attouchement, mais il y a eu comme un genre de violence en quelque part. Là.
Okay. À quel âge?
Et lui, qu'est-ce qui l'avait violenté?
C'est ça, il n'y a pas personne qui l'a violenté. C'est ça qu'on sait pas. Mais ce que moi, avec tous les problèmes que j'ai, ben je demande d'avoir des services. Mais on me répond, on dirait que les travailleurs sociaux sont tellement surchargés qu'on est oublié à quelque part.
Je comprends. Mm-hmm. Et vous-même, vous dites, est-ce que vous vous sentez comme un père assez compétent pour avoir des enfants?
Oui, je suis parfaitement compétent.
Donc, c'est pas ça, vous dites, le problème.
Non. Le problème, c'est vraiment la situation globale de ce qui s'est passé. Là, on me fait un portrait beau pour, on dirait qu'on cherche à se débarrasser du dossier pour la... Parce que là, veux pas, moi, je reste dans la... Je suis pas vraiment à la bonne place, là. Ben, mettons
puis votre nouvelle conjointe...
Dans la région de l'Estrie, quand même, là.
Nouvelle conjointe qui a deux enfants, j'imagine qu'elle doit dire aussi... Quand vous dites ça déséquilibre...
Mais est-ce que vous faites des liens avec votre fils? Parce que quelque part, minimalement, il faut une transition. Il va falloir que votre jeune refasse confiance dans son papa, que vous ayez confiance en lui. Il y a une transition qui doit se faire de manière à ce que le jeune... Parce que si le jeune est complètement en détresse dans cette famille d'accueil-là, parce que j'entends, au-delà des comportements problématiques, j'entends la détresse du jeune, ce qui va être important, c'est de vraiment recréer un lien d'attachement adéquat avec ce jeune-là pour être capable de vouloir l'encadrer. Mais peut-être que tout seul, vous n'y arriverez pas. Donc, c'est là que la société est censée, au niveau des CLSC, entre autres, offrir des services. Malheureusement, on a beaucoup trop investi dans le médicament et pas dans l'humain.
On revient tout de suite après ceci. Merci, Jean-Pierre, de votre appel. Ouf, les témoignages sont nombreux. On a comme mal au cœur, là. Ouais. Vraiment. José Lito Michaud est avec moi. Il a vécu en famille d'accueil. Joël Monzé et lui-même a vécu dans une famille assez violente. Il en est devenu psychothérapeute parce qu'on se disait pendant la pause, c'est soit qu'on reproduit, des fois pire d'ailleurs, le modèle parental, ou alors on s'en éloigne puis on essaie de devenir un parent parfait, ou en tout cas un meilleur parent que, que celui
mais
qu'on a eu.
Le parent parfait vaut mieux pas essayer de l'être parce que papa Caillou et maman Caillou sont pas nécessairement mieux.
Non, c'est ça. On a André Ruffo avec nous, ex-juge qui a été longtemps la voix des enfants. André Ruffo, on fait un tour de table de conclusion, là, évidemment.
Voyez-vous, j'ai l'impression, Isabelle, qu'on prend encore la situation de la mauvaise manière. Là, on s'est demandé, pendant qu'on a parlé à cet homme-là, où placer l'enfant, quand est-ce l'enlever, quand est-ce le replacer, qu'est-ce qui se passe. Mais c'est ça, on va perpétuer éternellement là, le problème de cet enfant-là. Parce que la vraie question... C'est de quoi a-t-il besoin? Qui est-il? Mm-hmm. Où est la maman là-dedans? Et on n'a même pas entendu parler le mot maman, le mot mère. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que cet enfant-là souffre moins? Un petit bonhomme de 10-11 ans qui a des activités sexuelles violentes, parce que c'est ça qu'on a cru comprendre, il faudrait peut-être aller voir pourquoi, qu'est-ce qui se passe. Puis ensuite, parce que vous savez, les familles d'accueil, c'est loin d'être la solution idéale. Françoise Dolto nous a bien indiqué que pas du tout c'était la solution, qu'il fallait beaucoup plus penser à un petit groupe d'enfants avec un monsieur et madame, avec des experts qui vivent là, ou avec un autre milieu de vie, mais d'arrêter de faire semblant qu'on reconstitue une famille qui s'appelle famille d'accueil. Mm-hmm. Non. Voilà, on retire l'enfant si nécessaire, on lui permet de vivre dans une société où là, on va prendre en compte ses besoins, sa souffrance, on va lui permettre de s'affirmer, d'être quelqu'un puis de passer à autre chose.
Mais André, en même temps, et puis la semaine prochaine, on reviendra là-dessus parce que là, il faut parler de l'incompétence parentale. À un moment donné, c'est l'éléphant dans la pièce. Il y a quand même de plus en plus aussi de signalements de parents eux-mêmes qui disent ne pas être capables de contrôler, entre guillemets, leur enfant à la DPJ. Là. Il n'y a pas que des signalements, il y a aussi de plus en plus de parents qui disent...
Qui reconnaissent. Mais leur incapacité de faire les choses.
Moi, je suis plus capable de contrôler mon jeune. Faites quelque chose. Faites jouer ce rôle de parent que moi, je n'arrive pas à jouer. Il y a quand même quelque chose là.
Qui sont ces parents? Je donnais comme exemple ce matin dans une autre entrevue que 75-80% des enfants, des personnes itinérantes viennent de l'DPJ. Tous ces enfants où on n'a pas répondu à leurs besoins, une, deux, trois générations passées, quelle sorte de parents ça fait, vous pensez, ça? Quelle sorte de parents ça fait? Pense qu'on est en train de payer le prix. C'est-à-dire que nos enfants paient le prix de l'incompétence d'années et d'années passées où on a fermé les yeux, et je m'excuse, où on a été complice. Ouais, ça faisait notre affaire de fermer les yeux parce que la situation était exactement la même, sinon pire.
Merci beaucoup, André Ruffo. Merci bien. José Lito, en terminant.
Je vous écoutais, puis je me disais, ce qui est le plus important, je pense, aujourd'hui, c'est que j'espère... Malheureusement, cet événement-là va nous ouvrir nos consciences comme société et pour une fois dans notre vie, on va s'occuper de nos enfants.
Puis moi, ce que j'aurais envie de revenir, c'est pour si vous-même, vous avez vécu des situations de violence dans votre enfance, sachez que oui, vous en avez des traces dans votre cerveau, mais vous avez aussi le choix de faire quelque chose de différent. Et on a cette force-là à l'intérieur de nous. Parfois, on a besoin d'aide et souvent, la psychothérapie va faire partie de la stratégie pour justement se sortir de ça et chercher, choisir justement de faire quelque chose de différent et de faire le bien autour de nous.
Ouais, merci beaucoup
merci
à tous. Merci José
plaisir.
Lito Michaud d'être venu nous en parler. Je pense que ce serait le moment de rediffuser Olivier.
Je pense que oui. Mais je ne me sers pas de cette opportunité pour le faire.
Non, mais
c'est bouleversant tout
ouais,
ça. Oui,
tout à fait. Joël Monzé, merci beaucoup. Directeur de l'Institut de développement de l'enfant et de la famille. On se retrouve après les nouvelles. Restez là tout le monde.